Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 30 mars 2021. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a prêté serment pour un nouveau mandat. La Cour pénale internationale a confirmé en appel la condamnation à 30 ans de prison contre Bosco Ntaganda pour crimes de guerre et contre l'humanité en RDC. Le commandement américain AFRICOM a commencé des formations antiterroristes au Mozambique après l'attaque de Palma. Le Portugal va aussi envoyer des militaires. Des groupes rebelles menacent de rejoindre la contestation en Birmanie où plus de 500 civils ont été tués depuis le coup d'État. Joe Biden a annoncé ses premières nominations de juges fédéraux avec un accent sur la diversité. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a prêté serment ce mardi pour un nouveau quinquennat. L'investiture s'est déroulée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Bangui en présence de plusieurs hôtes, dont le président burundais Évariste Ndayishimiye. Le point avec Freeman Sipila sur place.
La main gauche posée sur la constitution et la main droite levée, Faustin Archange Touadéra, costume bleu, cravate rouge, le tout traversé d'une écharpe rouge avec des bandelettes oranges, déclare.
Moi, Faustin Archange Touadéra, je jure devant Dieu et devant la nation d'observer scrupuleusement la constitution de la République centrafricaine, de sauvegarder l'intégrité du territoire, de préserver la paix, de consolider l'unité nationale, d'assurer le bien-être du peuple centrafricain.
Après la prestation de serment, le président reçoit les symboles de l'État, notamment un collier et le drapeau centrafricain. L'hymne national entonné, la présidente de la Cour constitutionnelle s'adresse au chef de l'État, qualifiant son nouveau quinquennat de nouveaux défis, défis qui doivent le conduire à servir les intérêts de la nation et non ses propres intérêts. Dans son adresse à la nation, le président a présenté plusieurs axes de développement qui vont guider son dernier mandat. Faustin Archange Touadéra a indiqué que la lutte contre l'impunité sera désormais son cheval de bataille. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Cour pénale internationale a confirmé en appel la condamnation à 30 ans de prison contre Bosco Ntaganda pour des crimes de guerre et contre l'humanité commis en RDC au début des années 2000. L'ancien chef rebelle avait fait appel après sa condamnation en 2019 pour 18 chefs d'accusation dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transferts forcés de civils. Les juges ont rejeté tous ces moyens d'appel contre la peine de prison la plus lourde jamais prononcée par la CPI. En République démocratique du Congo, selon le Centre de promotion de la paix CEPADO, les djihadistes ont tué un soldat et 5 civils, dont 2 femmes hier, lors d'une attaque contre une position militaire dans le village de Massekoudé, en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. 3 autres civils sont grièvement blessés. Hier également, des affrontements entre les ADF et l'armée à Mahala ont fait 8 morts, 1 civil et 7 rebelles. Selon le CEPADO, 130 civils ont été tués par Daesh RDC au cours du mois de mars en territoire de Beni et d'Irumu dans l'est du pays. En Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro a été reconduit à la tête de l'Assemblée nationale à l'issue des législatives du 6 mars remportées par le parti au pouvoir. L'annonce a été faite par le doyen du Parlement, Mamadou Diawara, qui présidait la cérémonie. Député de Séguéla, ancien ministre, membre fondateur du parti du président Ouattara, Soumaoro a obtenu 158 voix sur 247 votants contre 85 voix à la candidate de l'opposition Eliane Nzi. La majorité requise était de 128 voix. Le Portugal a annoncé l'envoi dans les prochaines semaines d'une 60aine de militaires au Mozambique après l'attaque djihadiste à Palma. Les États-Unis effectuent déjà des formations dans le pays. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
Selon le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, une équipe d'environ 60 militaires aura pour mission de soutenir l'armée mozambicaine dans la formation des forces spéciales. Le premier ministre portugais António Costa a déclaré hier lundi que le gouvernement portugais suivait la situation au Mozambique avec une grande inquiétude. L'ONU, qui condamne fermement les attaques, s'est dite profondément préoccupée par la situation à Palma, alors que Washington se dit déterminée à assister le gouvernement mozambicain. D'ailleurs, le commandement de l'armée américaine pour l'Afrique a annoncé avoir commencé un programme de formation de 2 mois des forces spéciales du Mozambique pour empêcher la propagation du terrorisme. Palma, petit port du nord du Mozambique, est tombé aux mains de commandos djihadistes après une attaque la semaine dernière, revendiquée lundi par le groupe État islamique. Le gouvernement mozambicain avait annoncé dimanche que cette attaque s'était traduite par des dizaines de morts. Le Mozambique, ancienne colonie du Portugal, est devenu indépendant en 1975.
La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a renouvelé son appel à l'ouverture d'enquêtes sur des cas de torture contre des militants du mouvement du Irak. Le vice-président de la Ligue, Saïd Sali, a estimé la situation inquiétante, affirmant que de nouveaux cas ont été révélés ces derniers jours. Le témoignage d'un étudiant lors de son procès le 1er janvier a suscité l'indignation en Algérie. Le parquet général avait annoncé l'ouverture d'une enquête confiée à la justice militaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a annoncé ses premières nominations pour des postes de juges fédéraux. Il met l'accent sur la diversité. Le point avec Eric Manirakiza.
Sur les 11 nominations du président américain, on compte 3 femmes africaines-américaines pour des postes de cour d'appel. La juge africaine-américaine Ketanji Brown Jackson, 50 ans, est nommée à la cour d'appel de Washington. Si elle est confirmée par le Sénat, elle succédera à Merrick Garland, devenu ministre de la Justice. Ces nominations représentent la large diversité d'origine, d'expérience et de perspective qui fait la force de notre pays, a souligné Joe Biden dans un communiqué. Selon la Constitution américaine, le président nomme à vie les juges de la Cour suprême et les juges fédéraux, de même que ceux des tribunaux d'appel ou de première instance. Il revient ensuite au Sénat de les confirmer. Durant son mandat, Donald Trump a nommé dans les tribunaux fédéraux plus de 200 juges aux vues conservatrices. L'ancien président a pu s'appuyer sur un Sénat dominé par les républicains. Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, avait bloqué plusieurs candidats présentés par Barack Obama. Sans cette poste de juge, était resté vacant.
La police new-yorkaise a tweeté la vidéo d'un homme frappant violemment une femme d'origine asiatique lundi à Manhattan et lancé un avis de recherche. Dernier incident d'une série de violences anti-asiatiques aux États-Unis. Sur les images, on voit un homme faire tomber au sol une femme âgée et lui asséner plusieurs coups de pied à la tête avant de s'éloigner. La victime a été hospitalisée avec le pelvis cassé et de multiples blessures, a indiqué la police. En Birmanie, plus de 500 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d'État du 1er février. Les factions rebelles armées menacent de rejoindre la contestation anti-junte si les tueries se poursuivent. Les détails avec Rosine Munezero.
Les généraux birmans poursuivent leur répression meurtrière pour tenter de stopper les manifestations et les grèves qui secouent le pays depuis le putsch du 1er février contre le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. 510 personnes, dont de nombreux étudiants et des adolescents, sont tombées sous les balles des policiers et des militaires ces 2 derniers mois, d'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques. L'ONG précise que le bilan est probablement beaucoup plus élevé. Des centaines de personnes arrêtées sont portées disparues, a-t-elle précisé. Face à ce bain de sang, plusieurs factions rebelles ont menacé mardi de se joindre aux manifestants pour qu'ils prennent les armes contre la junte. La situation risque d'évoluer vers une guerre civile totale, a commenté Debbie Stottard de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH. En attendant, la protestation se poursuit en Birmanie avec de nouvelles tactiques de résistance.
En Afghanistan, 3 vaccinatrices anti-polio ont été tuées par des hommes armés aujourd'hui à Jalalabad, au lendemain du lancement d'une campagne d'immunisation. Elles faisaient du porte-à-porte pour vacciner les enfants. Le chargé d'affaires américain à Kaboul, Ross Wilson, a condamné ces meurtres. Alors que le virus de la poliomyélite a été éradiqué dans le reste du monde, il reste présent en Afghanistan et au Pakistan. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibault.
Distribution des primes à la qualité du cacao au Cameroun. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a remis à 1471 producteurs du département de la laitière une enveloppe totale de près de 116 millions de francs CFA. Lancée en 2017, cette prime à la qualité avait été décidée à la suite de la baisse des cours mondiaux des fèves de cacao sur le marché international. Elle vise non seulement à procurer des revenus aux producteurs, mais aussi à les encourager à produire du cacao de bonne qualité, la prime ne concernant que les producteurs des fèves dites de grade 1. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a annoncé un webinaire destiné à l'investissement au Togo le 10 avril prochain. Ce webinaire se focalisera sur les outils structurels dont s'est doté le Togo afin de favoriser l'investissement, mais également permettra de mettre en avant le rôle de la diaspora togolaise engagée dans le développement du pays. À rebours de la lutte contre le réchauffement climatique, les subventions aux énergies fossiles sont réparties à la hausse dans de nombreux pays riches avant la pandémie, tandis que les prix du carbone restent bien inférieurs au coût réel des émissions de CO2 pour la planète, a pointé l'OCDE ce mardi.
À présent, les sports présentés par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Ce soir, on devrait connaître la totalité des 24 qualifiés pour janvier prochain. Ce mardi, donc, ultime journée des éliminatoires. Grosse déception pour Madagascar. Les hommes de Nicolas Dupuis ont en effet concédé le match nul insuffisant face au Niger 0-0 à domicile. Après avoir participé à la première CAN de leur histoire en 2019, les Baréas seront absents au Cameroun. C'est l'Éthiopie, bien que battue 3-1 par les éléphants déjà qualifiés, qui ira en phase finale. Une première depuis 2013 pour les Walias. À Bangui, déception pour les fauves du Bazou Bangui, battus cet après-midi à domicile par les Mourabitounes de Mauritanie 1-0. Un but marqué à la fin de la première mi-temps. Malgré cette victoire, la qualification de la Mauritanie va dépendre du score du Burundi, qui devrait faire mieux face au Maroc à 19h temps universel pour pouvoir se qualifier. Et un point devrait suffire au Cap-Vert sur le terrain du Mozambique pour se qualifier aux dépens du Rwanda. Hier, le Malawi a fait sensation en battant l'Ouganda 1-0 à Blantyre et s'est qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vainqueur grâce à un but de Richard Mboulou à la 15e minute, le Malawi double son adversaire du jour pour prendre la deuxième place du groupe B. Ce sera la troisième participation de l'histoire pour les Flames après 1984 et 2010. Le premier de ce groupe est le Burkina Faso qui a défait au stade du 4 août de Ouagadougou le Soudan du Sud, 1-0, un but de Bertrand Traoré. Dans le groupe D, l'Angola a écrasé le Gabon 2-0 et les Léopards de la RDC, quoique déjà éliminés, ont su se rattraper en battant 1-0 la Gambie. La Gambie déjà qualifiée avec le Gabon dans ce groupe. Et dans le groupe G, l'Égypte a fait voler en éclats les Comores 4-0 avec un doublé de Mo Salah. Lors d'un match dépourvu d'enjeu, le Togo a eu moins de chances et s'est fait battre par le Kenya à Lomé, 2-1. Et dans ce groupe, c'est l'Égypte et les Comores qui sont qualifiés. Ailleurs dans le monde, il fallait le faire. Le brassard de capitaine jeté par dépit sur la pelouse de Belgrade par Cristiano Ronaldo lors des qualifications mondiales 2022 contre la Serbie a été mis aux enchères pour aider un enfant malade. L'un des stewards présents au stade lors du match a ramassé le brassard que la star portugaise venait de jeter par terre. Après s'être vu refuser un but, il a immédiatement contacté une chaîne sportive régionale dans l'idée de le mettre aux enchères. L'homme a expliqué à l'AFP sous couvert d'anonymat qu'il souhaitait venir en aide à un bébé de 6 mois atteint d'amyotrophie spinale et contribuer au financement du traitement de cette maladie rare.
Merci beaucoup, Bagassi, pour cette page sportive. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. L'armée camerounaise a annoncé avoir déployé des troupes à sa frontière nord avec le Nigeria après une série d'attaques du groupe terroriste Boko Haram, selon les autorités, qui ont déclaré avoir également déployé des milices villageoises d'autodéfense. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, le récit est de Mouamadou Oumfa.
Depuis samedi dernier, l'activité économique tourne au ralenti dans la localité de Dabanga, dans l'extrême nord du Cameroun. Samedi, en effet, des combattants présumés de Boko Haram ont tué au moins 50 animaux et chassé des centaines de civils lors d'une attaque armée. Donald Koulbé, 52 ans, est éleveur. Il dirige le marché du bétail de Dabanga. Il a parlé à VOA depuis Dabanga via le réseau social WhatsApp.
Avant le Covid, c'est-à-dire 2019, j'avais déclaré un chiffre d'affaires de 37 millions annuellement. Avec le Covid, je suis arrivé à 27 millions, cette fois-ci à 19 millions. Les charges ont dépassé les 19 millions. La masse salariale, la consommation électrique.
Plusieurs dizaines de personnes ont fui pour sauver leur vie et se cachent toujours dans les buissons, dans les zones proches du village, selon Donald Koulbé. Les villageois ont identifié au moins 20 cadavres après le combat entre les assaillants et l'armée camerounaise. Selon Midiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière de l'État nigérien de Borno, qui est l'épicentre du groupe terroriste, plus de 100 combattants ont attaqué une base militaire à Dabanga samedi. Lourdement armés, ils se trouvaient à bord de 6 camionnettes et de 20 motos. Il s'est confié à VOA depuis Maroua, capitale de la région de l'extrême nord du Cameroun.
Nous avons perdu un de nos vaillants éléments. Deux autres ont été blessés, mais référés vers nos hôpitaux. Leur pronostic vital n'est pas du tout engagé. Le bilan donc côté ennemi est d'une vingtaine d'assaillants Boko Haram qui ont été neutralisés. Leurs 6 pick-up lourdement armés ont été récupérés. Environ 6 motos également ont été récupérées. Malheureusement, nous avons perdu 2 civils, dont une femme grosse.
Boko Haram n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque. Mais ce mardi, les autorités camerounaises ont affirmé disposer des renseignements selon lesquels plusieurs centaines de combattants de Boko Haram lourdement armés se cachent à sa frontière nord avec le Nigeria, planifiant des attaques contre le Cameroun. L'armée camerounaise assure que ses troupes ont été déployées pour protéger la zone frontalière. Elle recommande aux civils d'être vigilants et de signaler les visiteurs suspects dans leur village. La dernière attaque d'envergure de Boko Haram dans cette région remonte à mai 2014. Le groupe terroriste avait lancé un assaut contre un camp de constructeurs routiers à Ouaza, non loin de Dabanga, tuant un soldat camerounais et volant 10 véhicules et un conteneur d'explosifs. Dans la foulée, 10 travailleurs chinois avaient été enlevés. Ils ont été libérés quelques mois plus tard, en octobre, avec 18 autres otages. Le gouvernement camerounais avait nié avoir payé une rançon pour obtenir leur libération.
Depuis plus d'une semaine, les prix des hydrocarbures sont en hausse au Burkina Faso. 10 francs CFA de plus sur le litre de carburant et 500 francs de plus sur la bouteille de gaz butane de 12 kilos. Cette augmentation est mal accueillie par les consommateurs. Un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Depuis mardi, les prix à la pompe des hydrocarbures, Super 91, gasoil et pétrole, ont subi une augmentation de 10 francs. L'annonce a été faite par le ministère du Commerce dans un communiqué signé le 19 mars. Le prix de la bouteille de gaz butane de 12,5 kg passe de 5 000 à 5 500 francs CFA et même plus dans certains points de vente. Le carburant, le Super 91, le gasoil et le pétrole, eux connaissent une augmentation de 10 francs CFA. Du coup, les revendeurs ont des problèmes avec les consommateurs. Mahamadou Tiendrebeogo est revendeur.
Il parlait, c'est nous qui avons augmenté les prix là. Alors, c'est pas notre problème aussi. C'est là.
Les consommateurs n'apprécient pas cette augmentation. Rasmane Djigimpouri, un consommateur.
Je ne suis pas du tout content parce que le pays va très mal. Les choses ne marchent pas comme avant. Mais s'il y a des augmentations comme ça, la vie devient un peu compliquée. Le 2000 francs pour une bouteille de 6 kilos, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. 12 kilos aussi, ça devient 6 000. Si l'augmentation est au dépôt, donc les revendeurs aussi doivent augmenter pour pouvoir aussi à manger et puis payer leur location aussi.
Nouveau prix de la bouteille de gaz butane de 12 kg passe à 5 500, 6 000 et plus. Sur les hydrocarbures, il y a eu 10 francs d'augmentation et le gaz, 500 francs d'augmentation. Cette augmentation n'est pas la bienvenue maintenant, au regard déjà de la cherté de la vie, selon la Ligue des consommateurs. Dasmané Traoré est le président de la Ligue des consommateurs du Burkina.
Jour d'aujourd'hui, en effet, on assiste à une augmentation sans précédent des produits de première nécessité non seulement, mais aussi des produits de façon générale. Tant et si bien que le consommateur se débat, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il n'était pas opportun d'augmenter encore les difficultés que les consommateurs ressentent en ce moment. Surtout que très bientôt nous avons la PAC et le mois de Ramadan qui constituent des périodes de grande consommation, de forte consommation, si bien que augmenter encore les tarifs au niveau de l'hydrocarbure et du gaz, il serait augmenter la difficulté liée donc au quotidien du consommateur. Et principalement sur le gaz, nous disons que c'est inopportun, hein, d'autant plus que à ce jour, on assiste à des pénuries de gaz. Non seulement il n'est pas disponible, si on augmente encore le prix, ça va renchérir le coût sur le terrain au point où le consommateur aura de la peine à s'en sortir.
Le gouvernement pointe du doigt les prix sur le marché international. Ousseni Tamboura, porte-parole du gouvernement.
Il s'agit d'une situation du marché international qui nous impose nécessairement des réajustements. Ce qu'il faut faire, c'est de voir comment ce réajustement qui s'impose pour des raisons économiques et peuvent être amortis pour la population. C'est de cela qu'il s'agit.
En attendant, les populations devront commencer à faire avec ces augmentations. Elles espèrent que bientôt, le gouvernement va procéder à une éventuelle diminution. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis que son pays allait se doter d'équipements adéquats pour éviter une répétition de l'incident ayant bloqué le canal de Suez. Il s'est rendu à Ismaïlia sur la voie d'eau stratégique au lendemain de la remise à flot de l'Ever Given, un porte-conteneur qui était coincé en travers du canal depuis le 23 mars. Ce bateau a bloqué le trafic maritime pendant près d'une semaine. Eric Manirakiza a joint ici aux États-Unis Jean-François Seznec, spécialiste des affaires et de la finance au Moyen-Orient.
Le commerce international a souffert pendant une bonne semaine, mais ce qui est remarquable, c'est que quand même ça s'est pas trop mal passé parce qu'ils ont pu faire passer déjà plus de 70 bateaux ce matin, et donc ça voudrait dire que les conséquences seront bon, pas mal de gens vont perdre de l'argent, hein, mais les conséquences seront pas quand même très très graves.
Est-ce qu'on sait quand même des chiffres approximatif?
On ne sait pas les détails, mais bien sûr, il y a certains bateaux qui vont perdre beaucoup plus d'argent que d'autres parce qu'ils ont déjà commencé à faire le tour de l'Afrique et ça fait 10 000 marins de plus. Pas mal de compagnies ont perdu, bien sûr, l'inventaire pendant une quinzaine de jours et il y aura sans doute pas mal de blocages à l'arrivée dans les ports en Europe. On ne sait pas vraiment qui va perdre, qui va gagner. Il est certain que, par exemple, des pays qui ont besoin de gaz vont avoir un petit peu de retard sur les livraisons de gaz. Mais je ne pense pas que ça ce soit trop, trop grave quand même.
Et ça va avoir des conséquences sur les consommateurs?
Oui, et ça va sans doute dire que les prix vont souffrir un petit peu vers le haut pendant une quinzaine de jours ou un bon mois quand même, oui.
Est-ce qu'il y a moyen de rattraper son manque à gagner enregistré?
Non, pas vraiment. Je pense que c'est vraiment un peu de l'argent perdu. Mais ce qu'ils vont sans doute faire, c'est dépenser pas mal d'argent pour essayer d'éviter ce genre de problème dans le futur.
De l'argent perdu, non couvert par les assurances, par exemple? exemple?
Alors, ça dépend des assurances. Chaque assurance est assez différente, mais je pense qu'effectivement, comme aucun bateau n'a coulé, si vous voulez, il n'y a pas eu de perte sèche d'inventaire. Alors, il y a eu quand même certains inventaires qui vont souffrir. Par exemple, il y avait des bateaux qui étaient pleins d'animaux vivants. Et beaucoup de ces animaux vivants, malheureusement, ne sont plus vivants. Et les assurances vont être obligées de payer en partie ça. Mais en gros, si vous voulez, les assurances, à mon avis, ne vont pas payer les pertes dues au délai dans le canal.
Est-ce qu'il y a moyen de prévenir ce genre d'incident dans l'avenir?
Ah oui, qu'il faut faire? Absolument, absolument. Vous savez qu'il y a 5 ans... Le canal avait été élargi et doublé par endroits, mais il ne l'avait pas fait sur toute la longueur. Et je pense que maintenant, il va être obligé de voir qu'il va falloir doubler.
François Seznec est spécialisé dans les affaires et la finance au Moyen-Orient.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les leçons du rapport Duclert sur le rôle de la France au Rwanda pendant le génocide des Tutsis. Une commission composée de 14 historiens établit que la France porte des responsabilités accablantes dans ce drame qui a coûté la vie à au moins 800 000 personnes. Un rapport salué aussi à Paris qu'à Kigali où l'on parle d'un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France. Ce rapport fera-t-il bouger les lignes dans les poursuites contre les suspects du génocide? Aidera-t-il à réparer les relations entre les deux pays? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Ici aux États-Unis, les débats de fond ont commencé au procès du meurtre de George Floyd à Minneapolis. Les jurés ont été replongés hier au cœur de ce drame qui a bouleversé l'Amérique par une vidéo de l'agonie de cet Africain-Américain mort sous le genou du policier Derek Chauvin en mai dernier. Un reportage de Mike O'Sullivan, le récit est de Claire Morin-Gibault.
Les procureurs ont ouvert les débats en montrant la vidéo filmée par un passant, montrant Derek Chauvin agenouillé sur le cou de George Floyd, alors que plusieurs personnes lui demandent de s'arrêter. Ce qui s'est passé est évident, dit le parquet. Jerry Blackwell est le procureur.
Vous apprendrez que le 25 mai 2020, Monsieur Derek Chauvin a trahi son insigne en utilisant une force excessive et déraisonnable sur le corps de Monsieur George Floyd.
L'avocat de Derek Chauvin a réfuté une autre vidéo que le jury n'a pas encore vue et d'autres témoignages vont raconter une autre histoire. Eric Nelson est un avocat de la défense.
Notre dossier montrera que M. Floyd est décédé d'une arythmie cardiaque survenue à la suite d'une hypertension, d'une maladie coronarienne, de l'ingestion de méthamphétamine et de fentanyl et à cause de la montée de l'adrénaline dans son corps.
L'accusation a déclaré que les preuves médico-légales montreraient plutôt que George Floyd est mort aux mains de l'ancien officier qui a utilisé une force excessive. George Floyd a été accusé d'avoir utilisé un faux billet de $20, ce qui, selon les procureurs, aurait dû conduire à une simple citation au lieu d'une arrestation brutale. L'avocat de la défense de Derek Chauvin a déclaré que George Floyd avait résisté à son arrestation, tandis que les procureurs ont déclaré qu'après avoir été maîtrisé, il avait du mal à respirer. La mort de George Floyd a déclenché des manifestations dans le monde entier contre les brutalités policières, contre les Noirs, mais les deux parties affirment que cette affaire sera jugée sur les faits. L'avocat de la défense, Eric Nelson.
It's about the evidence in this case. Il y a des preuves dans cette affaire, des preuves que vous verrez au cours de ce procès. Je suis d'accord avec l'avocat de l'État, cela ne doit être rien de plus. Il n'y a pas de cause politique ou sociale dans cette salle d'audience.
Mais cette affaire est aussi un test du système judiciaire, affirme Martin Luther King III, le fils du leader des droits civiques.
L'Amérique et le monde cherchent à savoir si le système judiciaire fonctionne et nous serons en mesure de le déterminer tout au long de ce processus.
Le procès du meurtre de George Floyd devrait durer environ 4 semaines avec des audiences très suivies aux États-Unis mais aussi dans le monde entier.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.